F.I.
Alors, on dit quoi ?
Wassalam alaikum, bienvenue dans votre émission Alors on dit quoi sur RFI. Aujourd'hui, on parle de la fratrie et oui, on va parler des relations entre frères et sœurs. C'est un sujet pour lequel on se sent forcément concerné, sauf si on est enfant unique. Aîné, cadet, benjamin, fille, garçon, la fratrie est un important vecteur de socialisation au même titre que les parents. Les études sur la place dans la fratrie se multiplient depuis quelques années. Leur titre accrocheur attire l'œil car aujourd'hui ce sujet interroge sur ce qu'on est et pourquoi on a tel ou tel caractère. Alors, existe-t-il une place meilleure qu'une autre ? Et surtout, cette position dans la fratrie influence-t-elle un peu, voire beaucoup, notre vie future ? Les réponses à suivre dans quelques instants. Au programme aussi de la musique, bien sûr, avec Yalevis, que vous connaissez sans doute, une fake news au sujet de la production d'énergie en Afrique, sans oublier la minute culture d'Anna Maï. C'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Jaran Jai.
Les frères et sœurs apprennent à partager, à s'affirmer ou encore à gérer les conflits. Les relations fraternelles préparent en fait à la vie sociale et nous allons voir ensemble si elles ont un impact sur la personnalité de chacun. On en parle justement avec nos invités du jour. D'abord, deux sœurs, Nanyuma qui est l'aînée d'une famille de 8 frères et sœurs. Bonjour.
Bonjour.
Amina, votre sœur, est avec nous. Elle est la 5e de la famille. Bonjour Amina.
Bonjour.
Avec nous également Anissa, qui est aînée d'une famille recomposée et vous avez donc 4 frères et sœurs.
C'est bien ça, bonjour, oui.
Et un autre aîné, il s'agit de Luc Yvon, chef de file de 9 frères et sœurs. Alors là encore, pas tous du même père et de la même mère, mais on verra que finalement, il n'y a aucune différence.
Bonjour.
Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. J'ai hâte de parler de vos parcours. Juste avant, on va écouter un reportage. La fratrie est un laboratoire qui offre de nombreuses occasions de rivalité, de complémentarité, d'identification et d'opposition. Direction le Mali, aux côtés de notre correspondant Maliki.
À Bamako, au 1008 logement de Irimadjo, la famille Aïdra est enviée par les voisines. Pas parce qu'elle est riche, mais par les bons rapports entre ses enfants. Orphelins de père très tôt, les 4 enfants, 2 garçons et 2 filles se supportent parfaitement, selon Moussa Papa Aïdara, 30 ans, 3e enfant de la famille.
La fratrie entre nous, ça se passe très bien, c'est une convivialité entre nous. Bon, il faut pas dire que tout est rose aussi, hein, parce que souvent, tu sais, ce qui fait aussi le charme d'une famille, c'est quand vous vous chamaillez tout le temps et que après, ça va, vous réussissez à vous comprendre après. Et aussi, il y a l'aspect où vous vous entraidez un peu dans tout ce que vous faites, dans vos projets. Donc, c'est une famille assez soudée et on se comprend dans tout ce qu'on fait.
Depuis le décès du père en 1997, Sidi, l'aîné de la famille, se bat comme il le peut pour jouer ce rôle. En plus des charges financières, ce quarantenaire a joué un rôle important dans la réussite scolaire et universitaire de ses cadets. Moussa lui est reconnaissant.
Lui, il le présente comme un deuxième père ou un remplaçant. Du point de vue, c'est lui qui nous a menés à l'école. Il était le grand frère, il savait conduire. Du moment scolaire également, il nous apprenait un peu tout. Parce que il était fort en maths, il nous apprenait beaucoup de choses. C'est lui qui nous aidait à faire des exercices. C'est vrai qu'il était un peu grincheux souvent, mais bon, on le comprenait. Il voulait quand même une réussite totale de ses petits frères. Donc, il a contribué de ce côté-là beaucoup. Sa présence était effective à chaque moment.
À 22 ans, Fatoumata est la Benjamin de Aïdara. Elle est étudiante en master audit et contrôle de gestion. L'aîné de la famille qu'elle considère comme son père a guidé ses premiers pas à l'école jusqu'au choix de sa filière à l'université.
On a fait des nuits blanches avec lui pour mes exercices et tout. Et puis il était là à m'accompagner tous les jours, à tout moment, n'importe quelle heure à l'école. Je suis comme lui en tant que Benjamin de la famille.
Pourquoi tant de sacrifices pour ses frères dans une société où l'individualisme prend de plus en plus de l'ampleur ? Sidi Aïdara, l'aîné de la famille.
Mon papa, il m'a toujours dit de prendre soin de mes frères et sœurs et de ma maman surtout. Donc, depuis lors, je suis comme ça avec eux, protecteur. Et en plus, je les accompagne dans beaucoup de choses. Tu vois, donc, c'est ça.
La mère, Djeneba, est satisfaite des rapports entre ses enfants. Elle se réjouit d'avoir reçu ce qui est le plus difficile pour une veuve, selon elle. L'éducation des enfants, surtout la culture de l'entraide.
L'aîné, il pense toujours à la réussite de ses frères et sœurs, parce que c'est ce que je l'ai appris. Je l'ai appris à m'aider d'abord et à aider ses frères et sœurs. Lui, il ne peut pas avoir une autre idée que ça, aider ses frères à réussir. Puisque moi, je l'ai aidé lui aussi à réussir. Donc, c'est comme ça, ça se transmet. Vraiment, c'est la joie dans la famille.
Sur l'autre rive de la capitale malienne, nous retrouvons la famille Ba avec ses jumeaux. Âgés de 23 ans, Hassan et Ousseini se considèrent comme une seule âme dans deux corps. Ousseini Ba.
Que les jumeaux ne peuvent rien faire sans l'un et l'autre. Même si l'un a un projet, pour pouvoir le réaliser, il faut qu'il se confie à l'autre. Ça a toujours été comme ça. Un seul jumeau ne peut au grand jamais faire les choses à sa manière, sans la participation de l'autre. Et chez nous, tel a toujours été le cas.
La complicité et l'entraide caractérisent les relations entre ces frères jumeaux qui ne se cachent rien, même leur salaire. Chacun croit que l'autre est à la base de sa réussite. Hassan Ba.
On économise ensemble, on projette, on crée notre projet, on fait tout, voilà. On essaie de voir qu'est-ce qui va marcher, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire avec celui-là de l'argent ou celui-là de l'argent, ainsi de suite. Voilà, on bouge ensemble en fait.
Pourtant, au Mali, la fratrie n'a toujours pas été ainsi. Elle a connu une grande évolution dans ces dernières décennies, constate Mahamadou Talata Maïga, psychosociologue chargé des cours à l'université de Bamako. Selon lui, les relations ne se limitaient pas seulement entre les frères et sœurs de même père et mère.
La grande famille que nous avons connue il y a 10 ou 20 ans, 40 ans, ce n'est plus la même. On est de plus en plus en train d'aller vers une certaine nucléarisation de la famille, qui fait que cette fratrie elle est en train vraiment d'abord de se séparer. Ça veut dire quoi? Chaque individu en fait, qui se marie sort de la famille. Et quand il sort de la grande famille, forcément, il va créer sa famille en fait nucléaire. Et cette famille-là, c'est le père, c'est la mère et c'est les enfants. Où il y a une autre mentalité, effectivement, propre effectivement à la modernité, qui fait que, c'est vrai, la notion de solidarité va être toujours là. Mais c'est des relations qui, de plus en plus, deviennent pas très, en fait, fortes.
Le rythme auquel l'individualisme s'implante dans la société malienne, selon Mahamadou Maïga, laisse présager une fragilisation des rapports sociaux entre les frères et sœurs dans un futur proche.
Alors Anissa, je commence par vous. Vous êtes l'aînée de votre mère. Qu'avez-vous pensé de ce reportage ?
Je l'ai trouvé très touchant. On peut, je pense, tous se reconnaître sur certains points. En l'occurrence, là, c'est une famille monoparentale suite au décès du père. Et je pense que le fait de vivre entre frères et sœurs seul avec sa mère, ça pousse aussi à être encore plus solidaire, à se serrer encore plus les coudes. Et moi, c'est ce que j'ai retenu beaucoup dans ce reportage et ce qui me ressemble aussi.
Alors on parlera de votre parcours, juste avant on va continuer de recueillir les impressions de nos invités. Amina, vous êtes la cinquième d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage?
Bon, en fait, j'ai reconnu ma famille en fait, ouais, notamment le prénom, parce que Djenaba, le prénom de la maman c'est Djenaba, et en fait le fait qu'elle dise que justement il y ait beaucoup de solidarité entre eux et que le grand frère justement l'aîné où j'ai reconnu ma grande sœur, enfin du coup moi c'est ma sœur, prend le poids justement de la famille et aide ses petits frères et sœurs justement dans tous les domaines en fait.
Nanuma, vous êtes justement l'aîné dont parle Amina. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a frappé particulièrement? Est-ce que vous vous êtes reconnue dans ce reportage?
Tout à fait, comme l'a dit Amina, on a perdu notre père très jeune. Donc, étant donné que je suis l'aînée, j'ai dû très rapidement aider ma mère. Elle ne savait pas lire ni écrire, donc très tôt, j'ai pris la responsabilité de la famille, de mes frères et sœurs. Donc oui, c'est une histoire qui me ressemble.
Et vous, Luc Yvon, qu'est-ce que vous retenez de ce reportage?
Comme les autres, j'ai été aussi touché parce que je me sentais aussi concerné. Surtout quand il parlait du fait que l'aîné a pris le rôle, entre guillemets, du papa qui n'était plus là. Ça m'a fait penser aussi à mon histoire. Bon, mon père n'est pas parti, mais J'ai, du côté de ma mère, en fait, on n'avait pas de figure paternelle et du coup, ben, j'étais obligé d'avoir ce rôle-là, entre guillemets. Donc voilà, ça m'a touché aussi.
Ça vous a touché également. Alors, j'aimerais qu'on écoute un sketch qui m'a particulièrement fait rire. Je vous laisse découvrir.
Non, mais quand tu es l'aîné, tu dois savoir faire tout un tas de trucs. Mais pour les autres, du genre réparer une moto alors que tu n'as pas ton permis, rouler une clope alors que tu ne fumes pas, aider à faire des devoirs alors que tu as passé ton bac il y a 1000 ans. Mais quand il s'agit de faire un truc pour moi, alors là, il n'y a plus personne.
Alors, Naïma, je vous ai vu exploser de rire. Dites-moi ce qui vous a fait rire particulièrement.
Bah, le fait qu'effectivement, on doit savoir tout faire, même si on n'a pas les compétences. Et qu'effectivement, quand on a besoin d'avoir un petit retour, ça devient très compliqué.
Ça devient difficile. Vous vous sentez seul, finalement.
Tout à fait.
Lucky Wu, vous êtes aussi dans ce cas de figure d'aîné. C'est finalement une personne surnaturelle qui sait tout, qui peut tout, qui doit même tout savoir.
C'est un peu ça, oui. Enfin, c'est comme si c'était le troisième parent, on va dire, entre guillemets. Et du coup, ben, les frères et sœurs, ils se reposent un peu sur, enfin, beaucoup sur lui. Et c'est vrai que des fois, ben, l'aîné aussi, il a des besoins que les autres,
auxquels
les autres
peuvent pas répondre. Parfois, on a envie de dire stop, j'en peux plus.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même une charge, quoi. C'est ça, quoi.
Anissa, vous partagez ce point de vue?
Oui, alors, effectivement, moi, du coup, avec mon petit frère, ça se présente beaucoup et on sent qu'il a beaucoup moins la notion des responsabilités. On est obligé de lui rappeler, des fois, il faut faire telle chose, il faut, voilà, on sent que lui, on est obligé de le pousser. Ça vient pas naturellement, comme les aînés.
Nanyuma, justement, avec ce statut d'aîné, souvent, l'enfant aîné, les parents leur donnent beaucoup de responsabilités. Nanyuma, à quel moment on comprend qu'on est aîné, qu'on a un statut particulier?
Très tôt, parce que moi, ça a commencé dès lors que j'ai eu mon permis de conduire, par exemple. Donc, j'étais la première à l'avoir. Donc, du coup, je faisais les courses de toutes mes sœurs, plus de ma mère. Mmh. Et la deuxième partie, ça a été quand ma mère, elle a perdu sa mère en 2006. Donc là, clairement, elle m'a dit, ma fille, je ne peux plus prendre la responsabilité de la famille, donc ça sera à toi de gérer tes frères et sœurs. Donc là, effectivement, c'est là que j'ai vraiment bien senti le poids de cette responsabilité.
Et vous, Anissa, est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, effectivement, je suis une aînée et je dois porter une certaine responsabilité, un exemple auprès de votre frère?
Moi, je dirais que ça a commencé au collège, aux alentours peut-être de 12-13 ans. Comme j'ai dit, donc nous, on est issus d'une famille monoparentale, donc on vivait avec ma mère seule, et donc elle travaillait beaucoup, et effectivement, on était du coup sur une grande plage horaire seule. Et donc, quand moi j'avais 12-13 ans, mon petit frère en avait 7 de moins. Et là, oui, j'ai commencé à le ressentir. On mangeait tous les deux, par exemple, elle arrivait après le repas, ma mère, donc je m'occupais
donc
du repas.
Donc vous prépariez le repas. Alors, on va prendre également en ligne nos auditeurs, hein, qui sont nombreux à nous appeler. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde, mais on a déjà en ligne Amel. Amel nous appelle de la région parisienne. Bonjour Amel.
Bonjour.
Alors, je viens d'annoncer que vous êtes la Benjamine et je précise que vous êtes la seule fille. Comment avez-vous trouvé votre place dans ce milieu d'hommes?
Moi, ça a été plutôt facile. On va dire que c'est eux qui m'ont fait une place dans leur milieu. J'étais un peu chouchoutée par mes grands frères.
Et est-ce qu'il y a un des frères avec qui vous vous entendez davantage, avec qui vous êtes davantage complice, même si vous étiez chuchité par tous vos frères?
Oui, il y en a un avec qui on avait beaucoup de complicité. Je pense que c'est par rapport à notre caractère qui était plutôt similaire. Et effectivement, on s'entendait parfaitement bien. On partageait même notre chambre quand on était adolescents.
Et il me semble que vous souhaitiez partager avec nous une anecdote que vous avez vécue avec l'un de vos frères, justement.
Oui, justement, celui avec qui j'ai eu beaucoup de complicité, qui est aussi très fier quand on discutait. Une fois, il ne voulait pas se rendre compte du mal qu'il m'avait fait. Et pour s'excuser, au lieu de me le dire ouvertement, il avait laissé un paquet de M&M's dans mon sac avant que je parte en cours. Et voilà, c'était sa manière de s'excuser, en fait, du geste qu'il a eu.
Merci pour ce doux souvenir et puis nous saluons bien sûr l'ensemble de nos auditeurs parisiens. Autre auditrice, autre témoignage, car les histoires ne se ressemblent pas forcément. Amal, qui n'a pas eu de relation simple avec ses frères et sœurs, témoigne. Bonjour Amal.
Bonjour.
Alors vous avez 4 frères et sœurs.
C'est ça, oui.
Et donc, parlez-nous de vos relations particulières entre vous.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était, on a vécu aux Comores. Et aux Comores, en fait, nos parents, ils ont fait le choix, en fait, de faire continuer nos études à l'étranger en France. Et ça fait qu'à chaque fois qu'on atteignait un certain âge, on partait à l'étranger. Du coup, ça fait qu'on on s'est pas tous connus. On n'a pas vraiment entretenu de lien entre nous. Et on arrivait à un moment où on s'est dit, mais en fait, on se connaît pas. Et on n'arrivait pas à tisser de lien ensemble. C'est vraiment même moi, je me rappelle. Une petite anecdote, c'est qu'on m'avait dit, je devais partir à 14 ans en France. On m'avait dit, tu vas vivre chez ta sœur. Je me suis dit, mais quelle sœur? Enfin, c'est carrément, je me disais, mais de qui on parle et tout. Je la connaissais vraiment pas. J'avais entendu parler d'elle 3 fois. Je l'avais vue, je me rappelle, elle était venue 1 fois aux Comores. Mais à part ça, je la connaissais vraiment pas. Et c'est au fur et à mesure quand je suis venue en m'installant en France qu'on a appris à se connaître, que j'ai appris à connaître mes autres frères et sœurs. À part avec mon petit frère, avec qui j'ai grandi, mes autres frères, c'était pas vraiment ça.
Aujourd'hui, Amel, le contact est rompu avec certains de vos frères et sœurs?
Non, moi personnellement, j'entretiens des liens avec tous mes frères et sœurs. Après, c'est vrai, je ne vais pas parler au nom de mes frères, mais deux de mes frères ne se parlent pas. Après ça, je ne sais pas les raisons et je ne sais pas exactement, mais je sais que certains de mes frères ne se parlent pas. Mais moi, ça va, j'entretiens des liens avec tout le monde, même si c'était compliqué au début. On a dû apprendre à se connaître, comme je disais, et qu'après, on n'a pas eu... Comme on n'a pas vécu ensemble, en fait, ça fait que les moindres choses étaient... Enfin, à chaque fois qu'on faisait un acte, non, entre frères et sœurs, on se pardonne facilement les choses, même si c'est des petits trucs qu'on se pardonne. Et en fait, à chaque fois, on se faisait quelque chose, on gardait la rancune entre nous, et du coup, on ne se disait pas les choses, et ça partait dans des gros conflits, alors que c'était rien du tout à la base. Mais après, on a appris à vivre, on a appris à faire avec, à comprendre ce que c'était que les liens fraternels, etc.
Et donc, étant jeune, est-ce que ça vous a manqué d'avoir des grands frères ou des grandes sœurs qui s'occupent de vous?
Je me rends compte maintenant que oui, ça m'a manqué. J'ai pas eu ce grand frère, alors que j'en ai un, mais j'ai pas eu ce grand frère qui était protecteur, j'ai pas eu cette grande sœur qui me donnait des conseils, qui me disait oui, ça se passe comme ça, etc. C'est maintenant que je me rends compte, parce que maintenant j'ai mes enfants et je vois mes filles et je me dis que ouais, j'aimerais bien que mes filles, elles aient ce lien-là entre sœurs, qu'elles se donnent des conseils, qu'elles apprennent l'une de l'autre, alors que moi j'ai pas eu cette chance-là. Mmh.
Alors, on vient d'entendre le témoignage d'Amal. C'est vrai que parfois, les relations entre frères et sœurs peuvent être parfois tendues, voire distantes. On a également Marie qui souhaitait partager avec nous son témoignage. Ils sont dans leur famille 4 filles et 2 garçons. Bonjour Marie.
Bonjour Yara.
Alors Marie, vous nous avez un petit peu raconté votre histoire avec votre frère et sœur. Marie, j'aimerais que vous nous racontiez vos relations tendues, particulièrement avec l'un de vos frères.
Oui, lui, il est le dernier garçon. Moi, je suis la dernière parmi les filles. On s'entend pas bien, lui et moi, parce que il a épousé une femme dont cette femme-là, elle est méchante. Et puis tout ce que cette femme lui dit, lui, il faisait ça. Donc moi, du coup, comme j'étais la dernière, et on était ensemble dans la maison. Les autres, ils étaient partis faire les études. D'autres, ils sont partis travailler dans d'autres régions. Donc lui et moi, on était seuls à la maison avec notre papa et notre maman. Mais tout ce que sa femme lui disait, lui, il faisait ça. Donc moi, je n'étais pas d'accord de cette situation. Donc il fallait que je révolte. Donc on ne s'entendait pas bien.
Et vous en êtes arrivé à quel stade de cette mésentente?
On est arrivé à un stade où on ne se parlait plus, lui et moi, pendant des années. Donc, moi-même, je suis allée dire jusqu'à un point que même si je décède, qu'il ne vienne pas sur mon enterrement. Lui aussi, il a dit pareil, donc on ne se parlait pas. Jusqu'au décès de notre grand frère, on ne se parlait pas. Ma maman disait tout ça, il faut cesser, ceci est fini, donc vous êtes des frères et des sœurs. Mais moi, par contre, vu les choses qu'il a fait dans la maison et comment il s'est comporté avec mon papa, avec ma maman, donc je ne pouvais pas accepter ça.
Une situation donc difficile, Marie. Comment aujourd'hui sont vos relations actuelles?
Là, actuellement, on se parle moins. Et là, si je parle avec lui, c'est parce que ma maman, elle est là-bas. Donc, si je n'arrive pas à joindre ma maman, c'est lui que j'appelle pour que je puisse parler à maman. Mais dès qu'elle décroche, allô, oui, ça va, comment tu vas, grand frère, ça va. Est-ce que maman est là? Il me dit oui, il me passe. Après, c'est fini, on ne se parle pas.
Une entente donc très cordiale.
Oui, c'est cordialement, juste des salutations, comment ça va et les enfants, et ça va toi. C'est juste ça, mais à part ça, on ne se parle pas.
Et avec vos autres frères et sœurs, est-ce qu'il y a une meilleure entente?
Oui, avec mes sœurs, il y a une meilleure entente, vraiment. Par contre, l'autre garçon, il est décédé. Donc, on reste que 5, un garçon et 4 filles. Mais avec mes sœurs, le courant passe bien. Mais par contre, moi et lui, ça passe pas. Même avec les autres aussi, ça passe pas avec les autres filles. Mais eux, par contre, eux, ils ont laissé tomber. Ils parlent avec lui. Mais par contre, moi, non.
Merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage avec nous, Marie.
Merci, Ogara. Au revoir.
Au revoir.
Ça a été un plaisir.
Et je vous propose à présent de faire une petite pause musicale pour continuer de parler de notre thématique principale, la fratrie, avec ce son de D.S., petite sœur.
Née dans le début des années 2000, la dernière de la fratrie, vous l'avez dans le mille. Frère aîné pour la seconde fois, j'ai appris sa naissance sur un coup de fil. 9 ans d'écart nous sépare, serons-nous pas, je sais pas. Mais une chose est sûre, je veillerai sur elle, pas de débat. Le temps passe, je fais mon taf de grand frère. Je m'occupe d'elle, la voir grandir, donc prendre soin d'elle. Je sais comment faire et comment faire. Si quelqu'un lui fait du mal, je prendrai du fer. J'hésiterai pas à faire parler le fer. Première dent, premier mot et j'étais présent. Les premières chutes, les premières larmes, ouais, c'était stressant. Elle grandit vite, trop vite, c'est ça qui me fait le plus peur. Peu importe l'âge, elle reste ma petite sœur. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir. Petite sœur, elle connaît mes limites. Je suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire. Petite sœur, elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir. Petite sœur, elle connaît mes limites. Je suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire. Petite sœur.
C'était D.A.'s petite sœur.
Alors on dit quoi? Avec Djaranjaï.
Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI, nous continuons de parler de la fratrie, de son organisation, des relations entre frères et sœurs. Je suis en compagnie d'Anissa, Nanyuma et sa sœur Amina, ainsi que de Luc Yvon. On vient d'entendre des témoignages qui montrent que parfois c'est aussi la guerre entre frères et sœurs, tout n'est pas simple. C'est aussi ça la fratrie, parfois il y a des ruptures, parfois il y a des chamailleries. Anissa, pour votre cas, comment ça se passait avec votre petit frère?
On chamaillait beaucoup et ma mère qui aime beaucoup la psychologie nous disait tout le temps qu'elle nous laissait faire parce qu'on se structurait. Donc elle s'en mêlait pas. Donc oui, on chamaillait beaucoup, mais je crois que quand on s'aime beaucoup, on chamaille beaucoup. Mm-hmm. Et c'était le cas, effectivement.
Amina, je vous ai vu taquiner votre grande sœur tout à l'heure hors du studio. Vous confirmez que se chamailler, c'est aussi s'aimer?
Ah oui, complètement. Oui. Bon, elle sait que je l'aime beaucoup et que je l'aime de tout mon cœur, de toute façon. Et oui, j'aime beaucoup la taquiner. Je suis très... J'aime beaucoup taquiner, déjà, de base. Oui. Je suis une personne qui aime beaucoup taquiner, effectivement, et que toutes mes sœurs, je suis comme ça. Hein. Mm-hmm. Toutes mes sœurs...
Il n'y a pas une relation taquiner. Particulière, justement, comme vous avez plusieurs grandes sœurs, il y en a avec lesquelles vous avez peut-être une attache particulière?
Oui, bah, en fait, avec certaines... Enfin, je suis beaucoup plus proche de Nanyuma. Mm-hmm. Nanyuma et Sata, mm-hmm. Qui je vais tout confier. Sata qui est là, qui est la dernière, voilà, qui est la dernière. Donc je vais être beaucoup plus proche de ces deux-là. Donc en plus, qui est, enfin, c'est deux extrêmes, donc la plus petite, oui, et la plus grande. Oui. Donc avec les autres, j'ai aussi beaucoup d'affinités, mais c'est vrai que je vais me reposer beaucoup plus sur ces deux-là.
De par leur personnalité?
Oui, de par leur personnalité, leur écoute. Après, je sais pas d'où est venu ce rapprochement, cette affinité. Je sais pas du tout. Enfin, honnêtement, je saurais pas vous le dire, mais effectivement, je suis beaucoup plus proche de ces deux personnes-là.
Et avec vos frères, vous avez des frères également.
Oui.
Quelles sont les relations que vous entretenez avec eux?
Avec mon grand frère, c'était beaucoup plus difficile auparavant. Mm-hmm. J'étais pas aussi proche de lui. C'est ma défunte petite sœur qui était beaucoup plus proche de mon grand frère. Et là, c'est vrai que je pense que c'est dû le décès de notre petite sœur qu'on s'est rapproché.
C'est ce drame dans votre famille
On discute beaucoup plus ensemble, on prend beaucoup plus le temps de discuter, il prend de mes nouvelles. Enfin, c'est différent. C'est vrai que c'est, on s'est beaucoup plus rapproché. Avec le plus petit, avec Papo, c'est, avec Alassane, c'est différent. Lui, il est un peu, si tu l'appelles, il va répondre présent, mais, il est, c'est quelqu'un de très calme, un peu dans son coin, il est, c'est différent. Mmh. En fait, on est beaucoup plus proches, les filles, mmh. que les garçons. Les garçons sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus dans leur coin, enfin, ils aiment pas embêter, ils sont, enfin, voilà. Ils sont plus dans leur coin. Alors que nous, les filles, on est, ouais. Je sais pas si tu me rejoins un peu.
Oui, tout à fait. Ben, ouais. Comme elle le dit, ils sont très calmes. Nous, on a des caractères assez forts, les unes des autres. Mm-hmm. Donc, même si on est calme, mais effectivement, ben, on fait tout ensemble. On est des meilleures copines, on est des confidentes.
On est les meilleures ennemies aussi, des fois.
aussi. Donc, oui, on parle des bonnes choses, mais effectivement, on est amené à se disputer, à. Voilà, mais on s'aime. Mmh.
Luc Yvon, est-ce que vous, il y a une entente particulière entre justement les filles et les garçons de votre famille ?
Particulière, non. Je pense que tout le monde s'entend bien de la même façon. Après, la façon de l'exprimer, elle est différente parce que voilà, du côté de ma mère, on est beaucoup de garçons et les garçons, ça se dit pas, je t'aime entre eux. Donc nous, c'était plus pour montrer vraiment montrer de l'affection, on va dire. C'était des chamailleries, des clashs, des petites bagarres, mais voilà, des trucs qui montrent que voilà, t'es mon frère, quoi, je tiens à toi, quoi. Mmh. Après, avec les filles, c'est plus facile d'être un peu plus doux, un peu plus câlin. Je suis câlin quand même avec mes sœurs, donc donc voilà, on s'aime tous pareil, mais voilà, on l'exprime différemment.
Anissa, pour votre cas de figure, vous avez des demi-frères et des demi-sœurs avec qui vous n'avez pas les mêmes relations que votre petit frère. Comment vous vivez cette rupture, si on peut dire comme ça?
Alors oui, c'est une rupture en ce qui concerne donc ma petite sœur et mon petit frère, donc Sabrina et Abdel. Par contre, j'ai d'excellentes relations avec mon grand frère, donc Souliman. Donc ce sont mes demi-frères et sœurs donc du côté de mon père, de trois unions différentes. Donc la rupture avec Abdel et Sabrina, je dirais que j'ai beaucoup de recul par rapport à ça parce que j'ai pas réellement grandi avec, parce que je les voyais mais de façon très espacée, et j'ai pas tissé des liens aussi forts que ce que j'ai pu tisser avec mon grand frère Souliman, qui lui était beaucoup plus proche de nous, qui venait régulièrement nous voir à la maison. Et d'ailleurs, je dis demi-frère pour préciser que c'est pas la même maman, mais je dis mon frère en règle générale.
Oui, c'est un détail à soulever finalement. Il n'y a pas de différence entre demi-frère et demi-sœur. C'est ce que tout le monde dit. Alors, on a un autre auditeur en ligne. Ousmane nous appelle. Bonjour Ousmane.
Bonjour Diarra.
Alors, les auditeurs sont nombreux à vouloir participer là encore, mais on va prendre Ousmane. Ousmane qui est l'aîné d'une fratrie de 18 frères et sœurs. Et vous n'avez pas grandi avec eux. Alors, comment décrire les relations fraternelles entre vous?
Il n'y a pas une différence fondamentale en tant que telle. La seule différence est que nous ne vivons pas sur le même espace géographique. Et comme vous l'avez dit, mes frères et sœurs sont en Côte d'Ivoire. Du coup, il y a d'autres petits frères qui sont nés après moi, quand je suis rentré au Burkina pour fréquenter là-bas. Et à partir de la seconde, quand je pars passer mes vacances avec les parents, et certains me voyaient justement comme un étranger dans la famille parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils m'ont vu ni d'Adam ni d'Ève. Et du coup, il fallait expliquer, voilà, vous êtes de la même famille, dans quelles circonstances tu t'es retrouvé au Burkina, et voilà comment tu fais pour vivre là-bas. Et puis, par moments aussi, profiter, présenter les pays d'origine, le Burkina. Et bon, ça a pris un peu de temps, 2 ans, 3 ans, mais pas fini, avec aussi l'intervention des parents, des mamans et puis du papa qui les respectaient. Vous avez un grand frère au Burkina, c'est vrai, vous ne le connaissez pas très bien. Et ouais, sinon vous êtes de la même maman, vous êtes de la même famille, donc l'harmonie est très importante. Et parce qu'ils ont fini par comprendre. Et il y a même 5 qui sont venus me rendre visite au Burkina avant que je n'arrive à Ouaga. Et 5 ont fréquenté là-bas et puis bon, après, le courant partait correctement avec les autres aussi.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Ousmane. Eh bien, c'est ce qu'on disait à l'instant, finalement. Oui. Frères et sœurs, c'est pas forcément partager le même père et la même mère. Ça va bien au-delà de ça. Mais quand même, à l'arrivée d'un deuxième enfant, parfois, c'est un drame pour l'aîné qui perd un peu son unicité. C'est plus le seul enfant. Et Anissa, ça a été le cas pour vous?
Alors moi, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens parce qu'il est arrivé 7 ans plus tard. Et pendant 7 ans, j'ai été
fille unique,
qui avait toute l'attention d'une grande famille parce qu'on est tous très proches les uns des autres du côté de ma mère. Donc, elle fait partie d'une fratrie de 5 enfants. On se voit tout le temps et on est tous très proches. Donc, très gâtés par mes oncles, mes tantes, ma grand-mère, etc. Et donc, quand il est arrivé, il a fallu partager, effectivement. Donc, moi, je l'ai bien senti, son arrivée. Mais ça s'est fait progressivement et naturellement. Au début, oui, c'était un peu dur de partager. Et oui. Puis finalement, ça s'est fait naturellement.
Et vous, Luc Yvon, ça fait quoi d'avoir d'autres énergumènes qui viennent empiéter votre territoire?
Alors déjà, les premiers, ça va. Parce que bon, mon premier petit frère, il est arrivé quand j'avais l'âge de 4 ans. Donc, j'ai pas de souvenirs nets. Mais je sais que j'étais vraiment content d'avoir un petit frère. Quoi, parce que ça me faisait un camarade de jeu, entre guillemets. Oui. Mais bon, après, quand les derniers ont commencé à arriver, bon, par exemple, moi, le dernier de mes petits frères, il est arrivé quand j'avais 19 ans. Et moi, j'ai fait limite un scandale à mes parents, en fait, parce que je me suis dit, j'ai 19 ans, je pourrais être papa, et ouais, vous faites un petit frère.
Mais c'est les joies de la famille, des familles nombreuses, il faut partager.
Au début, ça surprend, mais après, voilà, on s'y fait, et voilà, je les aime tous, quoi. Ouais, pas
de soucis. Alors, on a encore une auditrice qui nous appelle. Bonjour, amie.
Bonjour.
Alors, vous souhaitez nous parler de transmission après avoir grandi dans une famille de 8 enfants, issue d'une famille polygame. Vous avez une fille et vous allez bientôt avoir un garçon. Dites-nous si vous aussi, vous souhaitez reproduire ce schéma d'une belle et grande fratrie.
je pense que mes parents étaient assez courageux, donc je pense pas aller jusque-là. Je me contentais de 2 pour l'instant. Mais ouais, si j'aurais fait mes tournois beaucoup plus tôt, peut-être que j'aurais une grande famille, je sais pas. Je sais pas du tout.
Et qu'est-ce que vous maintenez comme relation actuellement avec vos autres frères et sœurs?
Franchement, on a une famille hyper soudée chez nous. On est 8 déjà, il y a 3 garçons dans l'histoire. Mm-hmm. Donc on se soutient les uns les autres. Il n'y a jamais de problème entre nous. Mm-hmm. Après, on est très très proches, hein, donc au niveau âge, on ne sent pas du tout. Franchement, non.
Alors, juste une petite devinette que j'aimerais vous partager. Le plus drôle, le plus difficile, le plus créatif, il y a eu pas mal d'études à ce sujet autour de la fratrie. Et des chercheurs ont déterminé quel enfant de la fratrie est le plus intelligent. Alors, dites-nous, tour de table, le cinquième.
L'aîné.
L'équivalent.
Moi, je dirais que c'est le dernier.
Le dernier. Et vous, Anissa?
Moi, je serais assez d'accord aussi sur le dernier.
Eh bien, aussi, non, Nanyuma a bien raison. C'est l'aîné qui serait le plus intelligent.
Donc, c'est Amina. Voilà.
Qui serait le plus intelligent de la fratrie. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il bénéficie davantage d'attention. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Mais, Nanyuma, vous avez le sentiment d'être la privilégiée de cette famille?
Je ne dirais pas ça. Je suis privilégiée dans le sens où quand on a besoin de moi, je suis la première à être sollicitée, ça c'est sûr. Après, si je suis privilégiée parce que je ressens beaucoup d'amour de la part de mes frères et sœurs, du respect, tout ça... C'est énorme pour moi, quoi.
Quel beau message d'amour. Merci beaucoup. Merci à vous, Amina.
Merci
également, Nyanya. Vous avez participé à cette émission
merci
aux côtés d'Anissa. Merci beaucoup. Et merci à vous, Luc Yvon.
Merci à vous.
Alors, on dit quoi? Diaran Jai.
Alors, on dit quoi vous propose samedi prochain une émission spéciale sur les blogueuses tendance au Mali. Gisèle, Mariam, Sadia ou encore Ténin ont investi le monde virtuel et partagent leurs coups de cœur, leurs astuces beauté, leurs conseils coquins et leur vision du monde. Nous en parlerons donc semaine prochaine.
There was music. With drums and everything. And then these cats came through. They called themselves. BCUC.
Musique à présent avec ce son de BCUC, originaire de Soweto. Ce groupe mélange rythmes ancestraux et expressions modernes teintées de rock et de hip-hop même. Alors je vous propose Yindé.
Moko biko sobukwe Not yet to uru after wuti niko tuge Mari gavi matara makoko biko sobukwe Not yet to uru after wuti niko tuge Mari gavi matara makoko biko sobukwe Not yet to uru after wuti niko tuge Mari gavi matara makoko biko sobukwe Not yet to uru after wuti niko tuge
Rehetiwe hopa mona Ubi
C'était BCUC et leur titre Yindé.
Alors on dit quoi ?
Enori Dinamat, qui est étudiant au Cameroun, a tenu à nous partager un message d'amour et de fraternité. Ça tombe bien, on parlait justement des relations entre frères et sœurs. Je vous laisse écouter.
Bonjour, la RFI. Je suis Nouradine Amat, étudiant tchadien depuis Cameroun, à Douala. J'aimerais bien participer à cette émission dont le thème s'intitule « La relation entre frères et sœurs ». Pour ma part, j'aimerais vous dire que la relation avec mes frères et sœurs est très importante, malgré la distance, puisque il y a de cela 2 ans que je ne suis pas avec mes frères et sœurs. En les quittant, on peut rencontrer des amis qui peuvent jouer un rôle important, mais jamais comme un frère ou une sœur, car cet amour de fraternité est naturel et inchangeable. Entre frères et sœurs, nous avons un lien qui est génétique, c'est-à-dire nous avons un patrimoine, cet patrimoine génétique qui nous lie. Nous nous aimons, nous nous partageons et souvent aussi il y aura des problèmes entre frères et sœurs puisque il y a toujours des petites choses à laquelle on peut disputer entre frères et sœurs. Cet amour qui est naturel, elle est toujours entre nous. Depuis que j'ai quitté le pays, on ne se voit pas. Souvent seulement on parlait sur les réseaux sociaux et tout ça, mais nous sommes vraiment liés. Cet amour, elle est toujours entre nous.
Merci infiniment, Noureddine Amat, pour ce message. Et si vous aussi, vous souhaitez participer à Alors on dit quoi, laissez-nous un message sur notre WhatsApp, sur notre page Facebook ou encore sur notre Twitter.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Alors on dit quoi ? Met fin aux infox, vous savez, ce sont ces fausses informations relayées massivement sur Internet, mais qui ne sont pas forcément vraies. Valdez, qui est journaliste à Africa Tchèque, un site de vérification de fausses nouvelles, est justement avec nous. Bonjour Valdez.
Bonjour Diarra.
Valdez, les énergies renouvelables ne représentent que 18% de la capacité actuelle de production d'électricité de l'Afrique, selon Daniel Owonde, le directeur d'Africa Enterprise Challenge Fund. Est-ce un chiffre exact ?
Eh bien Diarra, les conclusions de nos recherches nous font dire que Daniel Owonde a légèrement sous-estimé l'apport des énergies renouvelables dans la production d'électricité en Afrique.
Très bien. Et comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
Alors, nous avons contacté la direction d'Africa Enterprise Challenge Fund, qui est basée à Nairobi, au Kenya, pour connaître sa source, mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu cette information. Mais bon, la Banque mondiale indique que de 1990 à 2015, la part des énergies renouvelables dans les pays d'Afrique subsaharienne est passée de 19,48% à 26,6%. Signalons, Diarra, que les données sur l'Algérie, l'Égypte, Djibouti, la Libye, le Maroc et la Tunisie ne sont pas pris en compte ici. Ces pays sont classés dans la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient de la Banque mondiale. Et on constate en général de faibles taux de production d'énergie renouvelable dans ces pays et donc, additionné aux 26,6% enregistrés en Afrique subsaharienne, le taux de production des énergies renouvelables dans toute l'Afrique devrait diminuer.
Bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre source qui présente ces statistiques pour toute l'Afrique ?
Si, Diarra, si, les données produites par l'Agence internationale de l'énergie qui, elle, présente des taux pour tous les pays de l'Afrique et résultat, l'apport des énergies renouvelables à la production d'électricité en Afrique dépasse légèrement 19% sur l'ensemble du continent. Ce sont des données qui datent de 2016 et ce sont les plus actuelles.
Merci beaucoup Valdez pour ces précisions et on rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent bien sûr consulter un article sur ce sujet et bien sur le site d'africatiek.org. Oh
yeah, yo, ici Elvis, El My Love, l'ambassadeur de l'amour. Bonjour Diarra, je vais vous parler d'un de mes morceaux préférés, le titre Libala.
Et pour ceux qui suivent l'actu des jeunes artistes afro-pop de la diaspora africaine, un nom ne devrait pas leur échapper, Ya Levis Dalwer. Ce jeune qui a marqué la toile avec son titre Kachwa ne s'arrête plus depuis. Là, je vous propose d'écouter un autre de ses sons que j'adore, Libala, qui signifie le mariage en lingala.
Comme je le dis toujours, ma source d'inspiration sur ce morceau a été mes parents. Je me suis réellement inspiré de leur histoire. Et en même temps, à travers ce morceau, j'ai voulu faire passer un message, en fait. Un message d'amour, de paix. Expliquer au monde que l'amour existe réellement. Vous savez, lorsqu'on écrit un morceau comme ça, les gens se demandent pourquoi. Pourquoi tient-il à nous expliquer que l'amour existe réellement? Tout simplement parce que je l'ai vu à travers mes parents. C'est une chose que j'ai vécue à travers mes parents. Donc je suis plutôt bien placé pour vous dire que l'amour existe réellement et que l'amour change le monde. Et lorsque vous découvrirez la fin de la vidéo, il y a une suite de l'histoire de mes parents qui vous fera comprendre pourquoi je tiens absolument à expliquer au monde entier que l'amour existe réellement. Donc il est important pour moi de faire passer un message à l'humanité tout entière, leur redonner foi à l'amour. Parce que l'amour, en réalité, si vous ne le savez pas, l'amour sauve le monde. Le message est tout simple.
Te souviens-tu mon amour de la première fois? La première fois j'ai posé un regard sur toi. Insistant certes, mais depuis je ne t'ai pas lâché. J'ai voulu que tu sois à moi. Tu m'as repoussé, déçu par les autres gars.
Tu m'as rejeté,
mais tel qu'une bête et sa proie. Je t'ai pas lâché, mi amor. Pour toi l'amour n'existait pas. Tu as fini par m'accepter. Quand tout le contraire, je te l'ai prouvé. Libala, c'est pour ça qu'aujourd'hui je te ramène devant le maire. Car c'est avec toi je vais vivre le meilleur ou la misère. Ta joie sera ma joie, ta souffrance sera ma souffrance. Le pacte ne peut être rompu depuis que je t'ai passé l'alliance. Personne pourra séparer notre union. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. On sera un peu comme des tic-tics. Je me vois plus vraiment vivre si tu me quittes, chérie. Ma quête reste ton bonheur, une perte si je deviens la cause de tes pleurs. Maman,
c'était Libala de Ya Levis.
Zing! Oh, y'en a marre! Coup de gueule! Le coup de gueule!
Place à présent au coup de gueule de l'émission avec Kenefak d'Iran qui nous interpelle du Cameroun. Parmi ses suggestions d'action, ne pas hésiter à s'investir en politique et croire en soi pour agir.
Bonjour, je m'appelle Kenefak d'Iran, je suis à Tchara, à l'ouest du Cameroun. Je suis enseignant en histoire et par ailleurs chercheur en histoire des relations internationales. Le désengagement des jeunes dans les problèmes multiformes de leur pays, notamment au Cameroun, est une réalité aujourd'hui. Précisément au Cameroun, on a un désengagement des jeunes vis-à-vis de la politique et qui se plaignent régulièrement qu'ils sont dans le chômage, qu'ils ont reçu des formations et qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Or, aujourd'hui, le problème du jeune, c'est le jeune. Le jeune passe le temps à accuser les pouvoirs publics alors qu'il n'est pas capable de faire sa part de travail à son niveau. Je prends un exemple. Un jeune au Cameroun est capable de s'acheter une moto à 700 000 francs, un téléphone à 900 000 francs, alors que cette somme d'argent pourrait lui permettre de faire l'entrepreneuriat agricole, de mettre sur pied une petite plantation, de commencer comme ça, de se construire et finalement d'aboutir à un projet plus grand. Vous voyez quelqu'un qui a fait agronomie, qui a passé le temps à faire une formation et il a cultivé du maïs sous la pluie et aussi au soleil. mais il veut rester dans un bureau, il ne veut pas mettre en valeur ses compétences sur le terrain. Et voilà un gros problème auquel nous sommes confrontés. Et du coup, les jeunes se plaignent qu'il y a de chômage et ils ne veulent rien faire pour changer les choses et ils ne veulent pas s'intéresser à la politique. C'est vrai, le pays va à déchéance, les valeurs sociétales s'effritent, mais il y a une nouvelle méthode de procéder, c'est-à-dire celle de nouveaux leaders, de nouveaux leaderships.
Et si vous avez un message à faire passer, un coup de gueule à nous envoyer, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter via notre numéro de téléphone au 33 647 740 742. Et n'hésitez pas à nous contacter également sur notre page Facebook. Alors, on dit quoi ? Et sur Twitter.
Alors, on dit quoi ? Sur RFI.
Anna nous a rejoint pour sa rubrique culture. Bonjour Anna.
Hello Diara. Alors aujourd'hui, on va naviguer entre le fantastique et la science-fiction avec le dernier roman de l'auteur sénégalaise Charlotte Seck, Une animale.
Alors, que nous raconte ce livre ?
C'est l'histoire d'Asma, une jeune femme qui mène une existence normale. Sa vie bascule lorsqu'un homme mystérieux du nom de Ezra croise sa route. Rien ne se passera comme elle l'aurait voulu. Asma va découvrir la personnalité hors norme de Ezra et le monde étrange dans lequel il évolue. Chaque jour est différent et elle entrera dans un univers de mystère et de fascination. Ezra lui fera vivre des situations improbables et plus elle cherchera à connaître la raison de sa différence, plus elle découvrira ce qu'un esprit normal n'aurait jamais pu imaginer être réel. Asma va parcourir le monde de Dakar à Paris, en passant par Tokyo et Washington, pour trouver des réponses.
J'avoue que ça donne envie d'en savoir plus, Anna.
Cette histoire qui frôle le fantastique dépose dans le cœur du lecteur ce que chacun peut vivre au quotidien. La lutte contre des sentiments qui nous dépassent, notre regard face à un autre si différent de nous, et notre capacité à nous accepter tels que nous sommes. C'est une réelle invitation à vivre et à comprendre la différence, aussi étrange qu'elle puisse vous paraître. Je vous invite donc à vous procurer Une animale en ligne ou en librairie.
Merci beaucoup, Anna. Et samedi prochain, ne ratez pas une immersion inédite dans l'univers de plusieurs blogueuses tendances au Mali. Merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Dibril, Mariam et Guillaume. Retrouvez dans un instant les suites des programmes de RFI. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. Bon week-end, salut, Ubno Nora Gongol, à bientôt.